Bonjour, moi je m'appelle Thomas Foutrin, donc je travaille pour la société INEAT, pour laquelle je suis expert innovation, cloud, architecte. Et j'ai travaillé avant 13 ans pour l'Imprimerie Nationale, aussi dans le secteur de l'innovation. Innovation est plutôt autour de l'identité numérique et bien sûr dans tous ces métiers d'innovation, l'intelligence artificielle, c'est un élément qui nous intéresse et sur lequel on travaille. Donc actuellement, on est sur des sujets liés à l'IA chez INEAT. Et donc, on va essayer de justement utiliser l'intelligence artificielle pour l'appliquer dans nos métiers du développement, notamment informatique.
Voilà. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un monde très vaste. Il y a certaines applications, certains domaines qui font un peu peur, certains qui sont en train d'être bornés d'une certaine manière, et puis d'autres qui sont vraiment des outils d'aide à la décision ou à la précision peut-être du travail humain.
Oui, c'est effectivement l'intelligence artificielle, c'est très vaste et c'est pas non plus quelque chose de nouveau. Hein, ça existe depuis les années 70. Hein, ça a été créé, les premières notions d'intelligence artificielle. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a eu une explosion de l'intelligence artificielle avec ce qu'on entend beaucoup, ChatGPT notamment, hein, qui vient montrer un peu les travaux finalement qui existent depuis des années, qui n'étaient pas forcément exposés au public, et qui là montre la puissance, le potentiel de l'intelligence artificielle au grand public. Et forcément, avec ça amène plein de questions autour de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle va bouleverser dans la société. Car c'est certain que oui, ça va bouleverser la société, comme beaucoup de nouvelles technologies, comme Internet a bouleversé la société. Et donc forcément, avec des côtés positifs et des côtés négatifs, comme toute technologie finalement qui arrive. Hein, effectivement, ça va changer des métiers. Il y a des métiers qui vont quasiment disparaître. Ça va impacter des métiers à tous les niveaux et notamment des métiers auxquels on ne se serait pas forcément attendu. Enfin, tous les métiers qui sont autour de la loi. Pourquoi ? Parce que c'est les métiers qui sont régis par des règles très strictes justement du code pénal, différents codes justement qui sont bien précis et justement qui font qu'une intelligence artificielle va avoir beaucoup de facilité à apprendre ces règles. Et ensuite pouvoir l'appliquer. Donc ça peut donner des outils qui vont permettre aux gens d'avoir une aide comme une aide juridictionnelle en ligne directement, donc et limiter les métiers un peu intermédiaires. Alors je dis pas que le métier d'avocat va disparaître tout de suite ou le métier de juge ou tout ça, mais ça va quand même vachement influer dans ces métiers-là, clairement à cause du fait qu'on soit dans un cadre très strict qui fait que l'IA est beaucoup plus à l'aise là-dedans. Elle va l'être moins dans quelque chose de plus aléatoire. C'est un peu ce qu'on voit, c'est par exemple, si on prend le cas de ChatGPT notamment, elle va apprendre énormément de choses sur Internet, dont des choses qui ne sont pas forcément utiles et qui vont générer peut-être des réponses qui ne sont pas toujours adaptées. Ou alors, au vu du fonctionnement de ce type d'IA, elle va générer des réponses qui sont plausibles, mais pas vraies.
Donc ce qui fait peur aussi, c'est le croisement des données. Et tout à l'heure, vous parliez d'identité numérique. Le jour où l'identité numérique croise le data des IA, comment elles peuvent imaginer vous exploiter d'une certaine manière ou vous vendre d'une autre ?
Ah ben effectivement l'identité numérique, alors ça c'est un vaste domaine, je pourrais beaucoup parler parce que c'est aussi un domaine qui va beaucoup évoluer, pas forcément avec l'IA au départ, hein, mais il y a beaucoup de technologies qui arrivent autour de l'identité numérique qui vont permettre d'automatiser beaucoup de choses autour de l'identité numérique, de faciliter la vie des gens autour de tous leurs documents, associés à leur identité, des nouveaux standards qui vont permettre d'automatiser tous ces systèmes, d'automatiser les contrôles, de faire qu'une personne n'ait plus besoin de sortir tous ses papiers pour, par exemple, louer une voiture. Ça, c'est des choses qui vont effectivement s'automatiser. Donc, ce qui fait qu'aussi les données vont être aussi plus facilement utilisables. Mais en même temps, avec ça, ça va être sécurisé. Il y a aussi des systèmes cryptographiques qui font qu'on va sécuriser toutes ces données d'une meilleure manière. Donc, ce qui fait qu'on peut aussi protéger l'identité de l'IA grâce à ces systèmes justement d'authentification ou de signature qui font que uniquement la personne qui possède cette identité pourra l'utiliser. Après, ce sera si la personne décide de divulguer ses données ou de mettre ses données sur Internet, ce qui fait qu'une IA pourrait les utiliser pour les exploiter. Là, ben, on n'y peut pas grand-chose, puisque ça dépendra justement de la personne. C'est ça qui va beaucoup changer dans l'identité numérique. C'est le fait qu'au lieu de passer par des systèmes intermédiaires qui vont utiliser nos données, justement, on va pouvoir retrouver nos données et maîtriser nos données beaucoup plus facilement. Donc, dans tous les cas, oui, il y aura des risques que les IA utilisent des éléments de nos identités, mais pas plus, je pense que...
Pas plus qu'en Chine.
Pas plus, oui, que par des humains ou par... voilà, enfin... Il y a déjà des cas de dérive des IA existants, mais pas forcément par rapport à l'identité, mais par rapport à des données de santé, par exemple. Aux États-Unis, en fait, ils utilisent une intelligence artificielle pour gérer l'attribution des remboursements pour les personnes en fonction de différents types de soins. Mmh. Et en fait, il s'avère qu'ils ont mal... alors, ça ne vient pas de l'IA par elle-même, ça vient forcément des humains qui ont préparé cette IA. Mmh. Ils ont mal préparé le système, qui fait qu'il ne prend pas en compte la qualité du soin qui a été donné. Ce qui fait que quelqu'un qui se fait soigner, une fois qu'il a été soigné, l'IA considère qu'il a été soigné, donc on ne va pas lui redonner un deuxième remboursement, alors que si la qualité du soin n'a pas été bonne, derrière, ça veut dire que la personne va devoir se faire refaire soigner si elle veut vraiment recouvrer la santé. Il y a plein de personnes comme ça qui se retrouvent sans pouvoir être remboursées alors qu'ils n'ont pas du tout le résultat escompté, quoi.
Donc la question, c'est en gros, pour une grande majorité, on peut dire que les applications peuvent trouver des solutions, mais à la marge, pour des personnes un peu particulières ou qui échappent, comme vous le disiez, à une efficacité qui aurait pu être anticipée et qui, en fait, n'est pas réelle, on voit bien qu'il y a des bugs. Qui est-ce qui peut gérer les cas qui n'ont pas été traités par l'IA? Est-ce qu'il y aura des médiateurs pour trouver des solutions aux personnes concernées?
L'IA, on doit toujours, d'une certaine manière, la contrôler et la superviser de manière à éviter justement les dérives. Quand il y a des dérives, ça veut dire qu'il va falloir retravailler cette IA pour ne plus que ces dérives arrivent. Donc, c'est des choses qui sont de toute façon qui sont prises en compte déjà dans les systèmes d'intelligence artificielle. Ils essaient d'éviter un maximum ces dérives. Et après, il y a toujours du monitoring, en gros, pour analyser justement les résultats une fois que l'IA est mise en place, justement l'améliorer et éviter tous les problèmes.
Mais je veux dire, est-ce qu'il y a des humains qui vont quand même régler les problèmes pour les gens qui n'ont pas une satisfaction complète ou une solution adaptée par l'IA qui est censée leur fournir?
Oui, après, je suppose que... Après, tout dépend du domaine. C'est toujours la même chose. Mais si on veut régler les problèmes des gens et que l'IA ne règle pas tous les problèmes et qu'il y a des gens qui sont... mis de côté, oui, il faut espérer qu'il y ait des gens qui prennent en charge ces problèmes-là.
Donc là, on voit bien dans l'administration que tout va passer par l'informatique. On est déjà censé avoir... là, vous parliez d'identité numérique, ça existe déjà. C'est quoi la limite entre une société de contrôle, de surveillance ou d'aide pour donc des systèmes auquel on fait appel et où l'IA nous donne des solutions, peut-être pas parfaites, mais au maximum possible. Quand est-ce qu'on sent le point de bascule? Est-ce qu'on le ressent déjà?
C'est ça la problématique. La problématique, elle est qu'on ne se rendra pas forcément compte que l'IA prend le dessus. Parce qu'en fait, tout dépend à quel point on arrive, mais à partir du moment où une IA aura la possibilité d'intervenir dans le monde physique... on ne saura plus forcément que c'est une IA qui l'a fait. Et c'est toute la difficulté. Il y a des chercheurs qui travaillent justement sur comment éviter qu'une intelligence artificielle prenne le dessus sur l'homme et du coup fasse basculer le destin de l'humanité et amène justement l'humanité à sa fin parce que cette IA pourrait considérer que pour améliorer ce qu'elle doit faire, la meilleure solution c'est d'éliminer un maximum d'êtres humains elle pourrait, tout dépend des moyens qu'on lui donne en fait des limites qu'on va lui fixer. Mais la problématique, c'est que ces chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, pour l'instant, ne trouvent pas de solution. Ils ne peuvent pas être sûrs à 100% qu'ils vont pouvoir arrêter une intelligence artificielle qui serait suffisamment évoluée. Parce qu'elle s'immiscerait potentiellement dans les différentes couches de la société. On l'apercevrait pas à travers tout ça, quoi.
Donc là, on a quand même beaucoup d'applications qui nous demandent nos données et qui, par exemple, si on prend les impôts, etc., qui supervisent tout ce qu'on fait, quasiment ils savent tout sur nous. Comment on préserve dans cette transparence, d'une certaine manière, la part qui nous est, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'on a encore une identité personnelle, je veux dire, est-ce qu'on a encore une intimité, voilà.
Alors oui, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors là, c'est plutôt la partie qui est liée à l'identité numérique et au futur système d'identité numérique qui arrive, qui vont permettre d'avoir ce qu'on appelle des identités décentralisées. Justement, c'est d'éviter d'avoir un système d'identité. Par exemple, là, vous utilisez par exemple Google ou Facebook pour vous authentifier sur des plateformes sur le web. Donc en gros, c'est une certaine forme d'identité, c'est-à-dire que c'est votre identité que vous avez mis chez Google qui vous permet de vous authentifier sur un autre service. Voilà. Donc ça, c'est de la fédération d'identité qu'on appelle. Mais justement, il y a des nouveaux systèmes d'identité décentralisés qui permettent de déporter justement ces données qui étaient chez Google ou chez Facebook et vous les ramener chez vous. C'est-à-dire, vous pourriez avoir votre identité sur votre mobile au travers d'un wallet, un portefeuille numérique, qui vous permet d'avoir de potentiellement vous authentifier sur des sites web et ou alors sur n'importe quel type de service ou de partager des documents qui sont associés à votre identité, tout en gardant le contrôle totalement de vos données. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager uniquement ce que vous avez décidé de partager, et quand un service va vous demander des données, vous saurez exactement ce qu'il vous demande. Bien sûr, ça, c'est aussi des règles qui sont ajoutées par ce qu'on appelle le RGPD, qui fait que un service doit dire ce qu'il va faire des données qu'il a besoin, et le dire explicitement, avec un consentement, justement, explicite de la personne pour partager ces données.
Alors, je vois des grosses sociétés qui disent « nous, on respecte le RGPD », et puis d'autres qui sont sanctionnées par, je sais pas, la CNIL ou autre. Hein, et on dit « mais en fait, il y a le RGPD, donc il n'y a plus de risque ». Mais en fait, on voit bien qu'il y a des gens qui transgressent et qui sont condamnés après. Donc, qui a un coup d'avance dans cette histoire? Est-ce que c'est le législateur ou est-ce que c'est la société qui en avance d'un coup et qui se dit « dans 2 ans, on ne pourra plus le faire, on en profite maintenant ».
Bon, en général, c'est les sociétés. Bon, ils ont plutôt, ils ont leur notoriété qui font que ils réussissent à avoir un coup d'avance sur la législation. Hein. Après, ils finissent toujours par se faire rattraper par la législation et par. C'est plus les moyens mis en place par les législateurs justement qui sont peut-être pas suffisants non plus pour pouvoir attaquer toutes les sociétés qui sont en faute, justement, parce que ça coûte cher aussi de faire des dossiers sur toutes ces sociétés. Hein. Normalement, elles finissent toujours par être condamnées. Quoi.
Mais le coût du risque fait partie de l'investissement.
Effectivement, oui. Ouais.
Donc on n'est pas vraiment d'égal à égal.
Non, on est d'accord. Ouais.
Alors je vais passer à quelques questions qu'on m'a posées, donc je voulais transmettre. Première question, c'est sur... est-ce que l'IA peut aider à mettre en place ou à favoriser une société plus équitable dans le travail ?
Alors, ce qui est certain, c'est que l'IA va potentiellement supprimer du travail qui pouvait être pas très gratifiant, ou un peu rébarbatif, des choses un peu répétitives, mais qui maintenant, une IA est capable de totalement faire. Donc, ça veut dire que des personnes pourraient se diriger vers d'autres types de métiers un peu plus gratifiant. Après, est-ce que ça va faciliter l'égalité? Je ne sais pas. En tout cas, ça offre, comme toute nouvelle technologie, des nouvelles perspectives de métier. Dans le développement informatique, par exemple, là, clairement, l'IA va avoir un gros impact aussi, parce qu'on a déjà des IA qui sont capables de générer des programmes de très bonne qualité, ou qui seront même capables d'optimiser des programmes existants. Et le métier de développeur va clairement évoluer. Donc, il va plus s'orienter vers comment je sais utiliser l'intelligence artificielle pour générer du code de bonne qualité, générer une application qui fait ce que je veux, plutôt que vraiment être derrière son clavier à coder tout le temps. C'est certain que dans les 10 ans, là, ça va énormément bouger. Donc il y a des personnes qui pouvaient être butées par exemple le développement, qui pourraient s'y intéresser parce que ça va être différent, elles vont être plus en dialogue avec de l'intelligence artificielle pour générer des choses que savoir coder dans un langage en particulier ou tout ça, quoi.
Très bien, donc la question suivante: en quoi l'intelligence artificielle peut contribuer à aider les plus vulnérables, notamment dans le domaine du travail?
Elle pourrait aider, alors par exemple, si on prend l'exemple de ChatGPT, on peut lui demander, par exemple, on ne sait pas vers quoi on veut s'orienter, ou alors on ne sait pas comment trouver une formation, ou comment se former à tel métier. On aimerait bien, on a une idée, voilà, j'aimerais bien se faire tel métier. Par exemple, l'intelligence artificielle est très très capable de vous donner exactement toutes les étapes pour accéder à ce métier. Comment se former correctement, comment aller plus loin, ça le fait très très bien. Et donc c'est un élément qui peut aider, quoi, en tout cas des intelligences artificielles.
Ça peut remplacer un conseiller d'orientation à la limite?
Oui, totalement. Totalement, oui, c'est l'un des métiers qui clairement, à partir du moment où on sait exprimer son besoin, alors là c'est là que le conseiller d'orientation peut aussi faire la différence par rapport à une intelligence artificielle. Quoique, on peut aussi demander à l'intelligence artificielle de nous poser des questions. C'est-à-dire que voilà, on peut lui dire je cherche un métier mais je ne sais pas trop et pose-moi des questions pour essayer de trouver quelle serait ma voie. Et l'intelligence va vous poser des questions. On répond aux questions et après elle va orienter. Ça, elles le font très bien aussi. Donc c'est effectivement une aide précieuse à ce niveau-là.
Alors, est-ce que vous pensez que les gains de productivité sont conséquents, vont encore être plus importants, et est-ce qu'on redistribuerait ces gains aux gens qui travaillent dans ces entreprises?
Alors là, je pense qu'il ne faut pas rêver. Je pense que oui, les gains de productivité avec l'intelligence artificielle vont être potentiellement très importants, surtout dans le monde du développement, hein, clairement, ça va accélérer beaucoup de choses. Alors c'est lié aussi, il y a plusieurs... Il y a l'IA, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le no-code, low-code, qui permettent de développer des applications sans forcément écrire des lignes de code. Il va y avoir des gains de productivité, mais je doute qu'ils soient redistribués. Je pense plutôt qu'il y aura des licenciements plutôt que des redistributions aux employés de l'entreprise. Hein.
Donc justement, pour ces licenciés ou ces gens qui n'ont pas d'emploi, hein, privés d'emploi, est-ce que l'IA peut améliorer les solutions qui sont proposées, par exemple, à ce qui sert d'agence pour l'emploi?
Oui, ça, effectivement. L'intelligence artificielle peut aider à réorienter mieux les gens dans ces organismes-là. Ça peut clairement aider clairement à mieux orienter les gens, quoi. Ça.